Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Albert Moukébert avec qui nous allons essayer de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau et son rôle dans nos prises de décision. Albert Moukébert est docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Il a publié « Votre cerveau vous joue des tours » et il utilise tous les formats à sa disposition pour nous aider à comprendre simplement le fonctionnement de notre système nerveux STAR. Bonjour Albert.
Bonjour.
Albert, pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient un expert du fonctionnement du cerveau ?
Déjà, on devient un expert d'une partie du fonctionnement du cerveau parce qu'il est très, très complexe et c'est très important parce que ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est que on, par exemple, va m'appeler pour me poser des questions sur le cerveau, sur des choses dont je ne suis pas expert. Le cerveau, c'est probablement l'organe le plus complexe qu'on connaisse de l'univers. Et en général, on fait des études. Moi, j'ai fait donc un master de psycho, qui est pour comprendre plus l'appareil psychique, donc pas nécessairement le cerveau. Puis j'ai fait une thèse en neurosciences pour comprendre une partie très spécifique du fonctionnement d'une partie du cerveau. Il faut se rappeler que les neurosciences, c'est quelque chose de très récent, que jusqu'à il y a 60-70 ans, la majorité des choses qu'on savait sur le cerveau étaient soit en observant des cerveaux de personnes décédées ou bien avec des personnes qui ont eu des accidents. C'est vraiment avec nos progrès technologiques qu'on a pu étudier des cerveaux de personnes qui sont vivantes et en bonne santé. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.
Alors justement, les neurosciences, on en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur les comportements ?
Alors les neurosciences, c'est vraiment l'étude fonctionnelle du cerveau. C'est essayer de comprendre, c'est les bases biologiques de la psychologie. En gros, ça peut aller de comment est-ce que je vois, comment est-ce que mon cerveau traite l'information visuelle, ça peut être des études sur les illusions d'optique, etc. Comment est-ce que je ressens des choses, la colère, la joie, le dégoût, comment est-ce que je forme des opinions ? Pourquoi est-ce que je change pas d'avis, mais aussi comment est-ce que mon cerveau se situe dans l'espace, comment est-ce que je bouge mes mains, comment est-ce que je bouge mes pieds, le libre arbitre, la conscience. Donc c'est très très varié. Certaines choses sont ce qu'on appelle fondamentales, donc elles ont pas, on apprend juste pour apprendre, elles ont pas d'application nécessairement pratique. Et d'autres formes ont des projections dans le monde réel, comme par exemple les interfaces homme-machine ou certaines formes de même d'opérations chirurgicales pour soigner certains troubles psychologiques. Par exemple, on peut faire des opérations chirurgicales pour soigner certains troubles obsessifs et compulsifs résistants. Et donc, c'est vraiment une palette très large parce que c'est un domaine qui est en pleine expansion parce qu'il est récent et peut-être c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. On aime bien les choses qui sont nouvelles.
Oui, et puis en matière de management, là, c'est vrai qu'on se situe plutôt dans le cadre de l'entreprise. En management, il y a beaucoup de promesses. Alors, ça va développer son leadership, gérer les personnalités difficiles, recruter les meilleurs talents, manager avec ses émotions. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de l'apport des neurosciences en entreprise, selon toi ?
Alors, franchement, ma réponse va peut-être être bizarre, mais peut-être c'est parce que je travaille en neurosciences. Pas grand-chose pour le moment. Une grande partie de ce qu'on appelle neurosciences quand on parle de leadership, d'entreprise, etc., c'est peut-être un scoop, mais c'est pas vraiment des neurosciences. C'est souvent des choses qui sont basées sur la psychologie sociale, sur la psychologie cognitive, sur la psychologie clinique, et pour des raisons de marketing, on va dire, c'est repackagé avec le mot neurosciences, parce que ça fait plus, je sais pas, plus scientifique ou plus sexy. Mais en grande partie, la majorité des interventions de personnes qui disent on utilise les neurosciences pour leadership, team building, recrutement, etc. C'est pas vraiment des neurosciences.
Et alors, on utilise les neurosciences. Toi, tu as écrit un ouvrage qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours ».
Oui.
Mais alors, explique-moi dans quelle situation je dois me méfier de mon propre cerveau, alors.
Alors donc par exemple mon livre c'est ce qu'on appelle peut-être que on peut utiliser le mot science cognitive, ça va être plus simple pour lever la confusion dont je parlais tout à l'heure sur en entreprise souvent on dit neurosciences mais c'est pas des neurosciences. Les sciences cognitives, c'est un peu, on a décidé à un moment d'essayer de comprendre le cerveau sous toutes ses coutures, donc la psychologie, la linguistique, la philosophie, les neurosciences, la neurologie, etc. Et on a fait juste les sciences cognitives. Et donc, mon livre se base sur les sciences cognitives pour expliquer qu'effectivement, on peut pas tout le temps se faire confiance. On est dans une ère un peu bizarre où on promouvoit beaucoup le doute, mais le doute des autres. De pas croire ce qu'on lit dans les médias, ce que vous entendez à la télé, les politiciens, de se méfier des experts, etc. Et en face, il y a tout un pan du ce qu'on appelle le développement personnel, de se faire confiance. Faire confiance à ses intuitions, faire confiance à ses émotions, faire confiance à ses idées, etc. Et moi, je travaille un peu sur le contraire, sur pourquoi il faut plutôt se méfier de soi et faire confiance à l'autre. Et donc, dans le livre, j'explique que, en général, on peut relativement bien se faire confiance, mais il y a certaines situations où, effectivement, notre cerveau peut nous tromper. Il vaut mieux déléguer à quelqu'un d'autre la prise de décision. Et donc, pour répondre à la question, ces moments-là, ça peut être, par exemple, quand je suis stressé, quand je suis fatigué, si je suis face à une culture que je connais pas, mais aussi des choses un peu plus techniques. Si, par exemple, je suis très attaché à un certain projet, je peux tomber dans ce qu'on appelle le raisonnement motivé, où je vais vouloir me convaincre que j'ai raison, indépendamment de si j'ai raison ou tort, parce qu'il y a un fort enjeu. Et dans ces cas-là, effectivement, mon cerveau, parce que c'est une sorte d'organe qui réorganise la réalité, peut me jouer des tours et me pousser à tomber dans l'erreur. Et donc, dans le livre, j'explique comment notre cerveau reconstruit ce réel et puis quelles sont ces situations à risque qu'on a mentionné très brièvement, en sachant que votre cerveau vous joue des tours, c'est aussi des fois des tours cool. C'est-à-dire, là, je vous parle, mon cerveau ne me prend pas la tête avec la sensation de la chaise sur mon dos, les bruits qui peuvent venir de l'extérieur, etc. C'est-à-dire, la majorité du temps, ça fonctionne très, très bien, mais effectivement, il y a des moments où ça peut nous induire à prendre des décisions ou avoir des réactions qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour nous, pour notre entourage. Et dans ces cas-là, le doute de soi pourrait être plus utile que se faire confiance.
Alors, tu as travaillé sur les freins individuels et collectifs au passage à l'action. Alors, notamment, tu as illustré ça sur la question de l'urgence climatique. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, il y a quelques mois, ou peut-être même un an maintenant, j'ai fondé un laboratoire qui s'appelle ACT Lab. Vous pouvez aller le voir notre site sur Internet. Et le ACT Lab est... Le but est vraiment d'étudier les freins comportementaux et psychologiques à l'échelle individuelle et systémique face à l'urgence climatique. En gros, en psychologie, on a quelque chose qui s'appelle la intention-action gap, le trou intention-action. C'est-à-dire, on a une sorte de trou entre quand on a l'intention de faire quelque chose et quand on passe à l'action. Une des formes, pour que ça soit plus clair pour tout le monde, une des formes qu'on connaît tous de la intention-action gap, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Je me dis, je vais faire quelque chose et je le fais pas. Et nous, à ACT Lab, on s'est énormément intéressé au intention action gap face à l'urgence climatique. Parce que, en France, en tout cas, on n'a pas beaucoup de ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire le climat, on s'en fout ou bien ça n'existe pas. On a plusieurs marqueurs qui montrent que c'est un sujet qui intéresse la population française. Par contre, quand on regarde sur les actions, on fait pas vraiment grand chose. Peut-être qu'on prend pas de sacs en plastique, peut-être qu'on recycle, mais, on sait que ça, c'est pas nécessairement assez. Donc, nous, on voulait étudier pourquoi est-ce qu'il y a ce gap énorme entre les intentions de personnes qui disent, donc ils ont la connaissance, qui disent que c'est un défi, c'est un des plus gros dangers qu'on affronte, et leurs actions. Pourquoi est-ce qu'ils passent pas à l'action? Est-ce qu'ils savent pas quoi faire? Est-ce qu'ils savent, mais c'est trop contraignant? Est-ce que c'est les habitudes? Est-ce que c'est l'offre? Donc aussi le système. Si moi, par exemple, je veux manger local, mais mon supermarché n'a que des grenades qui viennent du Pérou, ça va être compliqué parce qu'il faut que je fasse avec les choix qui sont mis à ma disposition. Et donc, on étudie aussi bien donc au niveau du système, la société, le système économique, le système politique, mais même les systèmes familiaux, les systèmes de couple, les systèmes de groupe de potes. Si avec mes potes, on est habitué chaque année à faire un voyage quelque part de loin pour passer du temps ensemble, ça, c'est un facteur systémique qui peut m'empêcher d'avoir des comportements plus pro-écologiques, et aussi bien à l'échelle individuelle. Est-ce que c'est trop dur pour moi? Est-ce que j'ai pas reçu la bonne information, etc. Et donc, on étudie ces freins cognitifs et comportementaux.
Et alors, quand on est un peu plus dos au mur que dans la théorie, avec une crise comme celle du Covid-19, quelle influence ça peut avoir sur ces comportements-là, selon toi?
Alors, le Covid-19, c'est quelque chose d'assez particulier, dans le sens où, quand on a le dos au mur, on réussit à faire des choses qu'on ferait pas d'habitude, à changer nos habitudes d'un coup. Par exemple, c'est un peu comme une sorte de trauma. Par exemple, là, on est tous confinés, à part ceux qui travaillent dans les choses qui sont essentielles, à l'hôpital ou à l'alimentation, etc. On est tous confinés, mais ça, c'est quelque chose, on n'y pense pas, mais c'est quelque chose que personne n'aurait accepté en dehors de temps de crise. Si on dit à tout le monde, on va vous séquestrer chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir, parce que on veut sauver la fonte des carottes glaciaires, je suis pas sûr que les gens resteraient dedans. C'est parce que le danger est immédiat et à l'échelle de l'individu. Par contre, le risque, c'est que une fois qu'on n'est plus dos au mur, et ça, notre espèce l'a montré plein de fois, c'est qu'on revienne très, très vite aux habitudes. Le proverbe, genre, chasser le naturel, il revient au galop, c'est un peu le risque dans lequel on peut se retrouver maintenant. Parce que les raisons, par exemple, pour lesquelles le Covid a émergé, oui, c'est vrai que c'est une personne en Chine qui a mangé un pangolin qui était en contact avec une chauve-souris. Mais par exemple, les raisons peuvent être... Le réchauffement climatique est très impliqué dans ce qu'on voit. C'est la destruction de l'habitat naturel qui fait que les hommes sont de plus en plus en contact avec des animaux sauvages potentiellement porteurs du virus, etc. Et on ne pense pas à tout ça. Et donc, le risque, c'est qu'une fois que cette crise soit passée, que ça soit parce qu'on a découvert un vaccin, parce que la majorité de la population a été immunisée, etc., etc., c'est qu'on revienne à avant sans prendre conscience de que ce sont nos comportements qui nous ont emmenés où on est aujourd'hui, que ça soit le déplacement massif des populations, etc., etc. Et donc, ça va être très intéressant de voir pas seulement comment on réagit quand on est face au mur, mais quand on a réagi alors qu'on est face au mur, comment est-ce qu'on va réagir une fois que le mur n'est plus derrière nous? Et c'est ça où le challenge va être. Parce que quand on est dos au mur, les gens, comme vous le voyez, acceptent même des conditions assez draconiennes, je ne sais plus c'est quoi le mot.
Draconiennes.
Mais ça, c'est juste tant que le mur est derrière nous. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité à l'homme d'oublier qu'il était derrière un mur une fraction de seconde, qu'il était dos au mur une fraction de seconde après que le mur ne soit plus derrière lui.
Et alors, est-ce qu'il y a des choses où on peut préparer notre cerveau? Est-ce qu'il y a des exercices ou des choses qu'on peut faire dès maintenant pour que la reprise, justement, intègre plus cette prise de conscience-là? Et la suite de la question, c'est comment on peut fonctionner de façon coordonnée par rapport au cerveau? Agir sur le sien, c'est déjà difficile, mais alors de façon coordonnée, comment c'est possible?
Vous touchez à des points qui sont un peu des clés de voûte de la problématique. La première, c'est comment est-ce qu'on peut ne pas revenir? On est des êtres un peu d'habitude, et ça dépend combien ça va durer et combien de nouvelles habitudes est-ce qu'on met en place. Et aussi, il ne faut pas tomber dans le piège de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je décide que je vais vouloir travailler moins parce que j'ai pris conscience qu'on travaillait trop et je veux consommer moins parce que j'ai pris conscience qu'on consommait trop et que je vais relativement bien en consommant beaucoup moins et en travaillant beaucoup moins, mais tout le reste de la société décide de retravailler comme avant, je vais probablement me faire virer de mon boulot. Donc, je ne peux pas vraiment faire beaucoup de choses à l'échelle individuelle, à part essayer de faire de la persuasion pour que le système prenne. À l'échelle systémique, vous avez touché du point une des trois raisons qui peuvent empêcher un changement systémique. Donc la première, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que l'information circule bien et que les décideurs, donc les personnes qui peuvent agir sur le système parce qu'on les a mis en situation de responsabilité, prennent en compte ces décisions et agissent dessus. Donc ça, c'est la cause 1 qui peuvent empêcher un changement systémique. C'est est-ce que les décideurs ont accès à l'information? La deuxième, c'est est-ce que les personnes qui décident ont une motivation de vouloir faire ça? C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui décident voient les bénéfices qu'ils peuvent tirer à faire ça? Un exemple malheureux de ça, par exemple, c'est les salaires du corps soignant. Ça fait des années qu'ils font grève, mais les décideurs estimaient que ce n'était pas une priorité. Et donc, une infirmière est payée à peu près le SMIC. Et si vous voulez savoir, j'ai travaillé parce qu'à l'hôpital pendant presque une décennie. L'indemnité pour une infirmière de s'exposer à un risque comme le Covid-19, c'est 1,09 € par jour d'indemnité. Et pendant longtemps, ils disaient non, mais les décideurs n'avaient pas vraiment de motivation. Donc, on peut espérer qu'on va avoir la motivation, pas seulement de réinvestir le secteur hospitalier, mais aussi l'éducation et l'écologie, parce que ces trois pans sont les pans qui créent un système résilient. Et le troisième obstacle qui peut empêcher un système d'agir, c'est celui que vous avez mentionné, c'est comment est-ce qu'on fait pour coordonner beaucoup de personnes. C'est un problème de coordination. Je vais vous donner un exemple de pensée très simple, juste pour expliquer cette problématique. Imaginez qu'on est tous d'accord que Facebook, c'est nul. On sait tous que Mark Zuckerberg est en train de voir ce qu'on mange et quelle est la couleur de notre pyjama. Et on se dit, on veut plus, je me dis, Albert, il faut que tu sois raisonnable, il faut plus que tu restes sur Facebook, il ne respecte pas tes données privées. Donc, j'ouvre un truc qui s'appelle l'APM Book. Et je me dis, l'APM Book, ça va être transparent et hyper éthique et hyper responsable. Donc, je quitte Facebook, je vais sur l'APM Book. Sauf que sur l'APM Book, il n'y a pas mes potes. Il n'y a pas ma famille, il n'y a personne. Donc, si je poste, il n'y a personne qui répond. Au bout de quelques jours, je vais être fatigué, je vais probablement revenir sur Facebook. La difficulté, c'est que dans cette expérience de pensée, tous les utilisateurs de Facebook sont d'accord que Facebook est nul, mais on n'arrive pas à coordonner une action collective pour faire le changement. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de coupable. C'est un problème de coordination. On est tous d'accord qu'on voudrait aller sur APM Book. Et s'il y avait une sorte de chef d'orchestre, de magicien qui peut dire, écoutez les gars, demain à 8h du matin, on ferme tous Facebook, on va tous sur APM Book, probablement que ça se ferait hyper bien. C'est juste que, effectivement, on a du mal à savoir comment coordonner ces choses. Et pour une situation comme le Covid, on voit très bien dans des situations de danger, j'en parle par exemple dans le livre, dans des situations de stress, c'est pas les meilleures situations de coordination, et on voit comment il y a beaucoup de polémiques où on n'arrive pas à être d'accord sur des choses sur lesquelles on devrait probablement même pas avoir d'avis si on n'est pas virologue, si on n'est pas épidémiologue ou expert en coronavirus, comme par exemple la polémique sur l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult et tout ça, où toute la population devient un peu comme tous les Français sont des entraîneurs d'équipe de foot, là tous les Français sont soudainement virologues sur une molécule dont ils ignoraient l'existence il y a même pas deux semaines. Et donc, c'est ces trois obstacles qui peuvent nous empêcher. Est-ce que les décideurs ont accès à l'information qui peut aider le système? Est-ce qu'ils ont la motivation nécessaire pour faire ce changement? La motivation peut venir d'une pression populaire, d'une conviction personnelle, etc. Et trois, est-ce qu'il y a des mécanismes de coordination assez développés pour qu'on puisse avoir une action qui mobilise tout le monde pour que tout le monde puisse adhérer au lieu que chacun se mobilise seul dans son coin, comme par exemple ça a pu être le cas avec le réchauffement climatique. Beaucoup de personnes ont fait des initiatives personnelles et au bout d'un moment ils s'essoufflent, ils abandonnent et il n'y a pas de coordination d'un changement massif ensemble. C'est vraiment problématique. Il y a beaucoup de théories, notamment sur la théorie du jeu par exemple, sur ces sujets.
Albert, merci pour cet échange passionnant. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils pourrais-tu donner aux entrepreneurs qui veulent passer à l'action mais restent bloqués dans l'intention?
Alors, la première, c'est d'identifier, j'en parle dans mes expertises APM, ce qu'on appelle leur locus de contrôle, c'est-à-dire quelles sont les choses sur lesquelles ils peuvent agir, quelles sont les choses sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Souvent, on dépense beaucoup de temps à perdre de l'action sur des choses qui sont hors de mon contrôle. Et des fois, je peux me raconter une histoire que je ne peux rien faire, alors que c'est des choses qui sont sous mon contrôle. Donc, être vraiment sûr de ce que je contrôle, ce que je contrôle pas, c'est un peu ce que je conseille d'appliquer même dans le confinement. Ça n'a rien de s'énerver sur la date du déconfinement. C'est pas quelque chose que je contrôle, mais je peux contrôler mon énervement, par exemple, ou en tout cas le mitiger, ou contrôler la série que je veux regarder, ou la sieste que je veux faire. Donc, se focaliser sur ce qu'on contrôle et surtout essayer tout le temps de faire des impulsions systémiques dans vos entreprises. Motiver les troupes sans créer un contexte. On est des êtres qui ne sont pas désincarnés. On est tout le temps conditionnés par notre contexte. Et c'est très important de prendre en compte ce contexte alors qu'on est dans une culture qui domine un peu, où il y a un récit dominant qui est plus sur l'individu, le succès d'un individu, le succès d'une start-up, etc. Ce qui est important, c'est aussi le système autour et comment est-ce qu'on crée un système plus résilient et pas juste des individus plus résilients.
Merci beaucoup.
Merci à vous.